Après, il est « et », puis « c'est ».
Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet, une pause toutes les deux heures?
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 18h. Sud
Radio. Parlons vrai.
Le journal avec Elsa Ruot. Bonsoir Elsa.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est peint en blanc mais se veut plus vert. On démarrera ce journal avec le nouveau TGV présenté aujourd'hui. Un train qui affiche le meilleur bilan carbone du marché selon la SNCF. On parle également de Mayotte ce soir où les cas de choléra sont en augmentation rapide depuis un mois. Il faut faire plus pour éviter une épidémie selon un député mahorais. Et puis on va enfin pouvoir entendre les arbitres de foot quand ils font appel à la VAR. La sonorisation arrive en Ligue 1 pour en finir avec les polémiques. Un TGV né pour durer, voilà comment le PDG de la SNCF Voyageurs a présenté son train du futur depuis l'usine Alstom à Belfort. Un train livré avec du retard, il devait initialement arriver cet été pour les Jeux Olympiques. Les premiers voyages entre Paris et Marseille sont maintenant prévus pour le deuxième semestre 2025. Et ce seront des voyages moins polluants et plus économiques, François Germain.
Un nez allongé pour améliorer l'aérodynamisme, une motorisation améliorée pour pratiquer l'éco-conduite. Le TGV-M doit permettre de baisser de 32% les émissions de CO2 à chaque trajet. M pour modulable, une voiture supplémentaire pourra être ajoutée, ce qui permettra de transporter une centaine de personnes en plus et donc de faire baisser la facture de fonctionnement. Autre nouveauté, les rames seront désormais peintes en blanc pour préserver la fraîcheur dans le train. Et on y trouvera aussi un nouveau système de climatisation ainsi que des sièges plus confortables. Alstom doit produire 115 exemplaires de ce TGV du futur, prévu pour être en service pendant plus de 50 ans.
Et les essais de ce TGV-M sont en cours depuis juin dernier. Il doit parcourir 1 million de kilomètres avant sa mise en service. Dans l'actu, également 2 jours après la mort d'un adolescent à Châteauroux, le jeune suspect et sa mère bientôt déférés devant la justice. C'est ce qu'indique la procureure de la République. Ils seront tous les deux présentés à un juge d'instruction du pôle criminel en vue d'une éventuelle mise en examen. Le jeune de 15 ans est suspecté d'avoir donné plusieurs coups de couteau à la victime en pleine rue samedi et sa mère aurait aussi été impliquée dans ces violences. La violence des jeunes, sujet dont s'est saisi le gouvernement après une série de faits divers. Et après avoir dévoilé les premières pistes, le Premier ministre lance les consultations politiques aujourd'hui. Gabriel Attal reçoit en ce moment à Matignon les représentants de la France insoumise. Ce sera ensuite au tour des élus de la majorité. Ces concertations doivent durer 2 mois. Les cas de choléra augmentent à Mayotte. Cette maladie se transmet par une bactérie, généralement via de l'eau ou de la nourriture contaminée. 26 cas ont été recensés depuis le 19 mars, selon l'Agence régionale de santé. Des mesures sont actuellement mises en place, comme l'ouverture aujourd'hui d'une deuxième unité choléra ou encore un renforcement des maraudes sur le terrain. Des mesures encore insuffisantes pour le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine.
J'ai la sensation que les autorités sanitaires souhaitent la gérer comme elles ont géré le Covid, c'est-à-dire dans une espèce de déni ou d'affirmation, mais en se disant qu'il ne faut pas affoler. L'idée n'est pas tant d'affoler, l'idée est de prendre la mesure de la situation, et la mesure de la situation, à mon avis, nécessite une mobilisation, notamment une généralisation d'un véritable adoption et le déploiement d'un véritable plan de vaccination. Mais imaginez qu'on va cantonner la vaccination dans la seule commune de Kongou et éradiquer le phénomène. Je crois qu'on se trompe lourdement.
Mansour Kamardine qui demande également une distribution de gel hydroalcoolique, notamment pour les habitants des bidonvilles. L'un reste l'autre part. Le Premier ministre espagnol a finalement décidé de conserver la tête de la coalition gouvernementale. Pedro Sanchez avait envisagé une démission alors qu'une enquête pour corruption est ouverte contre sa femme. Et puis par contre, on a appris cet après-midi la démission du Premier ministre écossais qui lui aussi dirigeait une coalition. Le leader du parti indépendantiste quitte ses fonctions après avoir perdu le soutien de ses alliés écossais. Écologiste. Révolution en vue en Ligue 1. Le président de la Fédération française de football l'affirme. La sonorisation est prête. Philippe Diallo évoque la sonorisation des arbitres qui devrait arriver dans le championnat de France dès la saison prochaine. La FFF a demandé une autorisation à la FIFA qui a fini par l'accorder. Un peu comme cela se fait déjà au rugby, Christophe Médougé.
Oui, un peu, car si dans le rugby mondial, le téléspectateur entend tout ce que dit l'arbitre durant tout le match, en Ligue 1, on entendra l'arbitre dans un seul cas de figure lorsque celui-ci consultera la vidéo au bord du terrain pour prendre une décision sur une action litigieuse, potentiel but ou éventuel pénalty. Alors son micro sera ouvert et il pourra expliquer au public, aussi bien dans le stade que devant la télé, sa décision. Sur beIN Sport, hier, Philippe Diallo a expliqué que le système sera testé sur les play-offs du championnat féminin d'ici la fin de saison, avant d'être introduit en Ligue 1. Une première étape avant peut-être une sonorisation complète des arbitres, mesure dont beaucoup rêvent pour limiter les polémiques et apaiser les relations entre les acteurs du foot.
Et des tests devraient aussi être effectués lors des finales masculines et féminines de Coupe de France, dès samedi prochain d'ailleurs entre le PSG et Fleury à Montpellier concernant la finale des féminines. Et c'est la fin de ce journal sur Sud Radio, merci de l'avoir suivi et très bonne fin de journée.
Merci beaucoup Elsa.
Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule sur Emmanuel Macron qui est prêt à mettre la force de dissuasion dans le débat sur la défense européenne.
Allez, tout de suite la météo.
La météo Sud Radio.
Rémi André, bonsoir.
Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde.
La même chose pour demain. Si...
Oui.
Bah oui, j'adore le...
On recommence.
Et ouais, on va prendre les mêmes, c'est-à-dire déjà des pluies orageuses sur les Cévennes notamment, ça continue. Nous aurons depuis l'Occitanie jusque vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant vers le bassin parisien, le centre, mais également la Bourgogne, les Hauts-de-France, et bien nous aurons droit à des nuages de la pluie qui pourrait d'ailleurs prendre un caractère orageux en cours d'après-midi. Alors l'Alsace sera épargnée, avec là des températures qui pourront même atteindre les 25 degrés. À Strasbourg, une partie de la... du sud-est et de la Corse seront épargnés, mais avec des nuages. Là, il pourra également faire plus de 22 degrés. Alors que partout ailleurs, on se contentera de 17 à 20 degrés. Évidemment, un peu moins sous la pluie.
Merci beaucoup, Rémi André.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Quel bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce lundi que l'on vous souhaite le plus agréable, en tout cas jusqu'à la fin, avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Mickaël Sadoun, avec Jean Dorido et vous au 0826 300 300. Ça va Philippe David?
Ça va très bien, et vous?
Absolument, je vais très bien. Et dans un instant, vous avez la parole. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Félix?
Eh bien,
Mathieu,
je vais vous dire quel est le point commun entre une collab, une détox, le masculinisme, le platisme ou encore les méga bassinets. Oui, tous ces mots font leur apparition dans le nouveau dictionnaire Larousse.
On en parle dans un instant.
Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et trois, c'est déjà trop, disait Georges Clémenceau. Georges Clémenceau, ce grand homme qui, par son volontarisme et grâce au sacrifice de centaines de milliers de jeunes Français, fit gagner à nos armes la Première Guerre mondiale. Parlons-en de la guerre, puisque le président de la République a évoqué la possibilité d'inclure notre force de dissuasion dans le débat sur la défense européenne. En clair, remettre en question notre souveraineté militaire pour le plus grand bénéfice et bonheur de l'Allemagne, Olaf Scholz ayant déclaré il y a 2 mois « Il nous faut renforcer le pilier européen de l'OTAN, y compris en termes de dissuasion », tandis que quelques jours plus tôt, l'ancien ministre vert des Affaires étrangères, Joschka Fischer, proposait que l'UE ait sa propre force nucléaire. En clair, que la France, seule puissance nucléaire de l'UE, la transfère à l'Europe. Bref, comme la décision du feu nucléaire ne peut relever que d'une personne, et en aucun cas de 27, à qui serait transféré le fameux bouton rouge? À la présidente de la Commission? À un président d'un super État européen? Le président de la République française étant ramené au niveau d'un président de conseil régional? Oui. Comme l'Europe adore la bureaucratie et les droits de l'homme, faudra-t-il demander l'aval de la CEDH pour savoir si, oui ou non, on a le droit de rayer une ou plusieurs villes de la carte sans toucher de manière trop grave aux droits de l'homme? Bref, une idée abracadabrantesque, pour citer un ancien locataire de l'Élysée, et pour me mettre au niveau du débat, j'adopterai Paul Prébois dans le nanar « Quelques messieurs trop tranquilles » dans lequel il disait « Un tracteur, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas. Une force de dissuasion, c'est comme une brosse à dents ou un tracteur, ça ne se partage pas. » Philippe Bilger.
C'est très bien, bravo Philippe. C'est important,
c'était
Paul
Prébois.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, cette suggestion du président a été très discutée, voire critiquée. On voit bien ce qu'il cherchait à dire derrière, quoi. Pousser la passion européenne jusqu'au partage, mais de ce qui fait notre identité de sauvegarde. Mais là, il a peut-être, pour une fois...
Pousser le bouchon un peu loin.
Voilà.
Bien sûr que ce soit qu'une fois. Mais...
Oui.
C'est,
Jean Dorido.
C'est très très grave de remettre en... Il a déjà été question, fut un temps, je me rappelle, de Pierre Moscovici qui émettait le désir que le siège au Conseil permanent de sécurité de l'ONU de la France soit partagé, voilà, avec l'Europe.
L'Allemagne le demande. Hein.
Ce qui serait évidemment un scandale. Oui, oui. Et c'est encore plus grave. C'est ce qui fait que l'on peut dormir tranquille. La France, elle possède l'arme nucléaire. Il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde. C'est nos prédécesseurs qui ont fait vraiment des efforts de dingue pour qu'on ait ce rang-là d'autonomie, d'indépendance, de vraiment.
Qu'on fait encore, parce que la France de fusion coûte près de 30% du budget de la défense.
Et d'envisager de le partager, là vraiment, je reste sans voix devant une telle proposition du président de la République.
Michael Sadoun.
Je pense qu'Emmanuel Macron veut dépecer de la manière la plus ostensible possible, je dirais, la souveraineté française avant la fin de son mandat, parce que je crois sincèrement que son plan de carrière, c'est de devenir après président de la Commission européenne dans une Europe qui aurait le plus de transferts de souveraineté possible. Et je crois sincèrement que la question du plan de carrière du président de la République après son mandat va devenir une question politique, parce que son action dépend de ce qu'il prépare pour la suite. Je pense sincèrement que la France ne lui suffit pas, qu'il a une ambition dévorante et qu'il a envie de prendre après la tête d'une Europe qui aurait
tous les pouvoirs.
Tous les pouvoirs.
Alors là, pour le coup, c'est une vraie question de psychologue que je pose à Michael Sadoun. Comment est-ce que ça peut faire rêver un individu comme le président Macron d'avoir un poste, un job à l'Europe après avoir été président de la République française?
C'est fabuleux. Une autre passion avec Félix Mathieu.
Ah oui.
Oui, c'est le Larousse illustré, la version 2025, mon cher Magnifique. Félix.
Si je vous dis que Cécile de Ménibus et Philippe David m'ont mentoré dans cette émission, dans cette émission disruptive, si je vous dis que je vais faire un sujet sur la fast fashion, sur les éco-gestes, sur les ZFE ou sur les méga-bassines, et oui, on en entend parler dans les Deux-Sèvres et pas que, vous l'aurez sans doute compris, tous ces termes font désormais partie des 64 300 mots tout de même du dictionnaire Larousse. Bonsoir Karine Girac.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, directrice de département langue française chez Larousse. Alors il y a aussi par exemple une collab, une détox, le masculinisme, le platisme, les méga-bassines, je le disais. Comment est-ce que vous décidez quels nouveaux mots vont entrer chaque année?
Alors en fait, on repère à peu près 5000 nouveaux mots chaque année, et nouveaux sens, et on va appliquer deux critères, un critère quantitatif. Pour rentrer dans le dictionnaire, le mot doit être très très utilisé, on parle de millions ou de milliers d'occurrences, et puis un critère qualitatif, le fait que le mot soit partagé. Il faut que toutes les générations puissent l'utiliser ou en avoir entendu parler, et que toutes les catégories socio-professionnelles le puissent aussi. Donc les médias généralistes nous aident à faire ce choix qualitatif.
Philippe Bilger.
Est-ce que vous avez tendance dans les choix que vous faites à tenter de sauvegarder l'identité, la pureté du langage, où ça n'entre plus en ligne de compte?
En fait, le Petit Larousse, c'est vraiment le dictionnaire de la langue telle qu'elle est parlée et écrite en France. Alors, bien sûr, il y a des mots anciens, puisqu'au fil de nos lectures, on peut retrouver des sens anciens et on peut avoir besoin de chercher une définition. Mais c'est plutôt l'usage, si vous voulez, qui commande l'entrée d'un mot dans le dictionnaire, plus que le bon usage, puisque le bon usage, c'est plutôt le dictionnaire de l'Académie française qui l'impose.
Jean Dorido.
Alors oui, j'aurais une question, parce que Félix Mathieu nous indique des mots donc qui font leur entrée, masculinisme, collab, méga-bassine. Est-ce qu'il y a des mots qui sortent?
Oui, il y a Jean Dorido qui est sorti.
Et non, il n'y a ni nom propre qui sortent chaque année, ni des mots.
Oui. Non, c'est bien. Donc ça doit en fait qu'augmenter le champ lexical finalement de la langue.
Exactement. Voilà, la langue s'enrichit et le dictionnaire du coup a tendance à grossir.
Il y a l'inflation législative, il y a l'inflation du vocabulaire. Michael Sadoun.
D'abord, je suis très étonné de savoir que les mots collab et mentoré sont utilisés par toutes les catégories socio-professionnelles en France. Je ne suis pas certain que les ouvriers ou les agriculteurs utilisent beaucoup ça. Ensuite, moi j'aimerais poser une question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une connotation politique dans l'entrée des mots dans le dictionnaire? Est-ce que par exemple, d'après vous, le terme islamo-gauchiste, qui est extrêmement utilisé dans le débat public et qui est, je crois, utilisé par beaucoup de strates de la société, pourrait faire son entrée dans le dictionnaire?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas de tissu politique ou en tout cas de texture politique dans les mots qui rentrent dans le dictionnaire. À nouveau, nos critères sont toujours quantitatifs et qualitatifs. On essaye d'éviter tout ce qui est opinion et tout ce qui est actualité ou trop poussé par l'actualité. Maintenant, que certains mots puissent, si vous voulez, être un peu mis en réflexion avant de faire d'en rentrer dans le dictionnaire, parce qu'ils sont polémiques, oui, ça arrive. Mmh. Notamment le terme d'islamo-gauchisme, pour l'instant, n'est pas rentré au Petit Larousse illustré, parce que voilà, c'est un terme que nous étudions. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'occurrences de ce terme, mais il est encore trop peut-être lié à une actualité chaude parfois, et du coup, sa définition est peut-être encore complexe à faire. D'où le fait que certains mots attendent un peu avant de rentrer.
Est-ce que ZFE, qui veut dire zone faible émission, ça pourrait être aussi zone fortement éruptive comme les débats des vraies voix l'an prochain?
En fait, l'usage que vous souhaitez.
Voilà. Et bon, voilà, je vous incite l'année prochaine à mettre les vraies voix, Sud Radio, Philippe Bilger, enfin voilà, tout
mais
ça.
Non,
voilà.
Il y aura au moins un nom propre, le vôtre.
Oui, oui, c'est ça.
L'autre, il est peut-être pas propre.
En tout cas, il est impropre à la consommation.
Vous avez Antoine merci. Griezmann et Antoine Dupont, par exemple, dans les noms propres.
Voilà, voilà. Ok, très bien.
On pourrait garder Dupont.
Voilà, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Karine Girac, d'avoir été avec nous, directrice du département langue française de Larousse. Et je vous incite à la récupérer parce que ça reste toujours un très bel objet et avec de très belles couleurs. Il est vraiment très beau. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Allez, on fait une petite pause dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On parle de quoi avec Philippe
David Bilger? On parle de Voltaire et de Manon Aubry.
Avec vous, Mickaël.
On parle des juges de France qui doivent garder confiance dans ce pays.
Jean Dorido.
Et on parle de la fragilité de l'esprit face à l'emprise sectaire.
Et ben, vous voulez savoir mon avis? Et ben, j'ai hâte. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Bercoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous.
Sud Radio, parlons vrai.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Sud Radio, à Lannion, en DAB+.
Sud Radio.
Ah, c'était trop cool ce premier date avec toi, Chloé.
Mais ça t'ennuie pas de payer le resto? Hein, parce que je dois réparer ma voiture. Gros frais, hein.
Ah, Paul n'est pas très crédible. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Mais non.
Mais si.
Mais arrête.
Si, si, je t'assure.
Donc là, t'es en train de me dire que moi, chef d'entreprise, si ma boîte coule, je pourrais avoir droit à un revenu?
Exactement.
Entrepreneur, dirigeant, artisan, rendez-vous sur gsc.asso.fr. Association GSC, protection des entrepreneurs en cas de perte d'emploi. La GSC est intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS numéro 120-68-162.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Je suis ravie de vous retrouver, mon Philippe David.
Ah oui, ah comment oui. Vous trouvez les vraies voix du jour? C'est discipliné, c'est...
Elles sont bien.
Nul, elles sont nulles.
Mais qui particulièrement?
Tous, sauf Philippe Bilger.
Non, non,
là, il y a les connivences qui ressortent.
Il y a la discrimination positive.
Voilà,
oui. Je suis pour.
Exactement, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix.
Encore ces stupides actualités.
Bah, ça dépend de la masse d'informations.
Quand il a rien à dire, il dit rien. Il a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Le tour de table
de l'actualité. Et autour de cette table, bien sûr, Philippe Bilger, notre ami Jean Dorido et bien entendu Mickaël Sadoun avec Philippe Bilger.
Alors, votre tour de table, vous, c'est sur Voltaire et Aubry. Pas oui, Cécile, alors, mais Manon.
Hier, Mathilde Panot a fustigé l'enquête qui a été ordonnée à son encontre pour délit d'apologie de terrorisme en disant que il était scandaleux de porter atteinte à la liberté d'expression. Manon Aubry a dit la même chose ce matin, questionné par Jean-Jacques Bourdin. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que on ne peut qu'adhérer au principe universel formulé par ces deux personnalités, mais on aimerait qu'elles aient la même rectitude à propos de toutes les transgressions et de toutes les atteintes. Or, en réalité, elle cite Voltaire. Manon Aubry, on connaît sa phrase célèbre, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toute ma vie pour que vous puissiez le dire. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est d'entendre Manon Aubry nous parler de Voltaire comme si elle avait une conception universelle de la liberté d'expression, alors qu'on sait bien qu'elle est idéologique, pardon, c'est les palmitos, idéologique et hémiplégique, et donc elle est fine et absolument pas légitime à invoquer la liberté d'expression, même si bien sûr ça leur donne des droits, mais qu'ils enlèvent aux autres.
Jean de Rideau.
Alors d'abord sur Voltaire, je crois qu'on vraiment on prête décidément corrige parce que j'ai lu quelque part que c'était a priori apocryphe en fait cette citation. Oui, il n'aurait jamais dit ça, paraît-il, le vieux
mais
Voltaire.
C'est juste tout de même.
Premier point. Deuxième point, je n'ai pas une grande sympathie pour Monsieur de Voltaire qui était. Bah, je suis pas sûr que c'était un type très très recommandable en réalité.
Mais quel style?
Ben oui, d'accord, quel style, mais enfin bon, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là quand même, dans le genre, c'était quand même une ceinture noire. Et puis par contre, le troisième point, c'est vrai que je rejoins Philippe Bilger, les libertés d'expression à géométrie variable, les indignations sélectives, c'est assez fatigant, et en même temps, ça ne me surprend pas venant de la part de personnel de LFI.
Michel Sadoun.
J'hésite, moi, entre deux attitudes, de toute façon, sur ce sujet-là.
Vous êtes une modération ce soir.
Mais voilà, je vais maintenir
vous
cette attitude toute l'émission.
Il a vu 6 litres de camomille avant de venir.
Il faut arrêter la camomille.
C'est le thé, vous voyez, il y a les palmitos et il y a le thé de ce côté-là. Donc, j'hésite entre l'attitude de Philippe Bilger qui consiste à défendre la France insoumise parce que je considère que le débat public ne doit pas être frappé de n'importe quelle censure sur tous les sujets parce que ça l'appauvrit intellectuellement, moralement, et que je pense que le citoyen est assez intelligent pour se faire sa propre idée avec un débat riche d'opinions. J'hésite entre cette attitude-là et une attitude d'adversaire qui consiste à dire que ces gens-là ont été malhonnêtes pendant des années et que j'avoue que j'en ai un peu marre de voir une droite en France qui se comporte comme le gentil con, c'est-à-dire qui défend la liberté de ses adversaires alors que ses adversaires ne défendent pas sa liberté. Donc on peut prendre acte du fait que ces gens-là sont des sectaires. D'ailleurs, ils réitèrent, hein. Ils proposent encore également régulièrement l'interdiction de ces news. Ils ne sont pas fair play et ils continuent encore ce genre de processus révolutionnaire et de censure. Donc j'ai pas envie d'être honnête avec eux et personnellement je me réjouis de les voir traîner en justice, d'autant plus que l'espèce de complaisance qu'il y a vis-à-vis du terrorisme, peu importe qu'on autorise cette apologie ici ou ailleurs quand ça concerne Israël, me fait penser que c'est des personnages relativement suspects.
Et soit dit en passant, certains ne sont pas avares de procès dans l'autre sens.
Ah oui, oui, non, mais c'est une évidence. Mais donc j'ai pas envie d'être sympa avec eux. Voilà.
Ah oui.
Mais Michael, vous avez raison. Ce qui m'amusait, si j'ose dire, c'était de voir LFI réclamer des droits universels qu'elle-même n'applique pas à ses adversaires.
Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais donc maintenant, quelle est l'attitude à adopter? Moi, je dirais que maintenant, il faut être aussi malhonnête qu'eux.
Est-ce que c'est pas ça qu'ils attendent, justement, pour vous pointer du doigt à ce moment-là?
Ah, mais ils n'ont pas attendu ça. Ils ont absolument pas attendu ça. Et maintenant, j'avoue que je suis résigné. Pendant des années, j'ai vu un camp politique être trop gentil avec le reste du monde. Or, malheureusement, la politique, c'est aussi d'être aussi impitoyable que ses adversaires. Je dis ça pour Mélenchon, je dis ça aussi pour la Macronie. Hein. chaque fois qu'ils utilisent des termes infamants, diffamants, ce qu'on voudra, je suis aussi pour les attaquer. Voilà.
Ok, très bien. Jean Dorido, puisque vous êtes là, vous avez bien fait de venir. L'emprise sectaire n'est pas...
Vous voyez, je ne suis pas si modéré que ça.
Non, mais en fait, il faut éviter qu'on vous pousse trop, parce que là, il y a de la charge qu'on prête. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça avait l'air génial. L'emprise sectaire n'est pas un mythe, mais une réalité.
Mais oui, c'est une réalité qui nous est rappelée par un procès qui a lieu en ce moment devant la Cour criminelle de Paris. Une secte qui s'appelait la Grande Mutation, exactement. Mmh. Et c'est un procès absolument passionnant parce qu'on voit des personnes, je dirais vraiment, comme vous et moi, qui sont tombées sous l'emprise d'une secte, présumée, hein, parce qu'elle n'a pas encore été jugée. Il y a 5 co-accusés et des personnes, ça s'appelait la Grande Mutation. Le gourou qui est décédé aujourd'hui avait visité 22 planètes différentes. Et alors, il expliquait que vraiment, l'ennemi, c'est vraiment la médecine. Voilà, c'est la médecine traditionnelle. Et donc, il incitait les adeptes à arrêter, bien sûr, tous leurs traitements. Et puis alors, il pratiquait le pendule. Et il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait les élus, évidemment, c'était les membres de la secte. Et tous les autres, c'était des prédateurs, c'était des toxiques avec qui il fallait couper les ponts. Et donc, chaque adepte était invité à passer au pendule tout son entourage. Évidemment, à chaque fois, l'entourage était toxique et ça a créé des histoires de vie absolument dramatiques, des personnes qui ont coupé les ponts avec leurs époux, avec toute leur famille, avec leurs enfants, et certains ont même fini par mettre fin à leur jour. Et c'est vraiment l'occasion de rappeler que personne n'est à l'abri, parce que bien sûr, avec cette anti-médecine déclarée, eh bien, ils avaient comme adeptes des personnes touchées par la maladie, qui étaient dans l'épreuve, qui étaient complètement perdues, et qui n'avaient plus que cette secte présumée, finalement, à laquelle se rattacher.
Et plus assez de discernement
Voilà, tout le monde peut traverser une épreuve et se retrouver, finalement, une victime potentielle de ce genre de groupement. Donc, c'est important de faire très attention.
Est-ce qu'il y avait du sexe là-dedans aussi?
Et alors, étonnamment, le moment, il n'y avait pas de sexe. Il y a très très souvent le levier sexuel qui est utilisé par les sectes, mais là, il n'y avait pas, a priori, de dimension sexuelle.
Parce qu'avec le pendule, on aurait pu trouver des choses fabuleuses.
Alors, précisez, mon cher Philippe Bilger, le sentiment
je veux dire,
que vous...
Voilà, c'est avec elle que je dois.
En
tout cas, 5 personnes sont sur le banc des accusés, jugées pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine.
Oui, ça vous fait peur, les dérives sectaires, Michael Sadoun? Un proche peut tomber dedans, hein?
Écoutez, c'est un sujet que je connais très peu, évidemment, c'est très inquiétant. Ouais. J'entends Jean Dorido, il est expert de ces sujets-là.
Personnellement, j'ai regardé sur Netflix le début du documentaire sur Raël, qui a attiré les gens. Ouais. Je peux vous dire que ça dépasse l'entendement.
Elle a avec beaucoup de sexe, pour le coup. Et voyez,
Est-ce qu'on n'est pas dans la même chose que le complotisme, finalement?
Mais c'est aussi l'envie de trouver un collectif. Si je devais dire quelque chose,
ce sont des portes d'entrée, le complotisme en est une, effectivement.
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la crédulité.
Les gens ont besoin de croire.
Certaines personnes ont besoin d'appartenir à une communauté, peut-être.
Nous avons tous besoin d'appartenir justement à un groupe social. Société qui s'archipélise, qui s'individualise, c'est une demande de plus en plus forte. Et précisément, ça me touche le retour de Michael, parce qu'il y a un vrai danger sectaire en France. Et finalement, ça se fait à bas bruit. Il n'est pas si fréquent, justement, que les médias en parlent. C'est important d'être vigilant. On a quand même 1 jeune sur 6 en France qui pense que la Terre est plate, par exemple. Crée effectivement un fond de crédulité.
Alors ça, c'est la débilité,
parce que justement, ce ne sont pas des mômes qui sont bêtes. C'est ça le problème. Ils se retrouvent pris, justement, dans ce jeu du rabâchage. Ils se retrouvent isolés.
Je pense que de la même manière que les jeunes de Sciences Po, il y a une désinformation, une débilité de la jeunesse, parce qu'on s'est éloigné des livres, du savoir, parce que la modernité ne valorise pas le savoir. Désolé de vous dire qu'aujourd'hui, on peut être beaucoup plus riche en étant un influenceur complètement crétin qu'en étant un agrégé prof de maths, et qu'on a même une meilleure vie en le faisant. Donc simplement, ça produit à la fin des effets, ça produit une jeunesse qui en effet...
La connaissance et l'intelligence sont deux choses très différentes.
L'intelligence s'installe, sur le terreau de la connaissance. Je ne crois absolument pas une intelligence éthérée.
Et venir cette fois sur cette au vrai voie.
Quand je disais que Michel Sadounz était l'Einstein des vraies voix.
Franchement,
qu'est-ce qui se passe pour un lundi d'avoir un débat aussi up? Moi, je
reviens avec la tête,
j'imagine. Tout ça, ça vient de Jean Dorido. Voilà, merci Jean. Allez, vous restez avec nous. Michel Sadounz n'a pas parlé encore, mais dans un instant, on parle de quoi?
On parle de Yvan Attal, ce qu'il a dit sur Radio J et du rapport entre les Juifs de France et la France.
On en parle dans un instant. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. On est ravis de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h. À tout de suite.
Ça s'est passé sur Sud Radio.
Il y a certaines situations quand même qui débouchent sur des cas gravissimes avec des enseignants qui peuvent être menacés. J'en ai une dernièrement. On est allé déposer plainte.
Menacés pourquoi?
Tout simplement parce que il y avait eu un problème avec l'enfant, je ne sais plus lequel, et le papa clairement a menacé en disant j'arrive, je vais vous casser la gueule.
Sud Radio, parlons vrai.
J'ai fait des étés de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment, chez Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros. Oui, 10 euros les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
J'ai fait des étés de génie.
Ouvert même le dimanche.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans les vraies voix et je peux vous assurer que aujourd'hui la semaine commence bien avec Philippe Bilger, avec Jean Dorido et avec Michel Sadoun, des sujets passionnants et passionnés, et un sujet avec vous Michel sur Yvan Attal.
Je vais faire très court mais j'ai entendu Yvan Attal chez Frédéric Aziza sur Radio J, et il disait en gros que la présence des Juifs en France était menacée, qu'il se disait très pessimiste, qu'il arrivait moins à partager des choses avec les autres Français entre guillemets parce qu'il se sentait méfiant, ou il sentait que dans certains coins de France on avait envie, je cite, de lui couper la tête. Moi, je serais un peu plus optimiste. D'abord, j'écoute ce discours avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il est aussi le reflet d'une génération qui est passée d'un optimisme béat vis-à-vis de l'immigration, des conditions d'intégration, à un pessimisme apocalyptique sans jamais passer par une espèce d'analyse sérieuse et par une action politique qui s'en accompagne. Donc, je serais plus optimiste parce que je pense que la France, au contraire, dans sa grande généralité, a une attitude extrêmement saine après le 7 octobre vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de la montée de l'antisémitisme. Des sondages le prouvent, j'ai quelques chiffres, mais une semaine après le 7 octobre, il y avait 80% des Français qui étaient inquiets de la montée des actes antisémites suite au 7 octobre. Ils le prévoyaient eux-mêmes. Il y avait 86% des Français qui savaient que des ressortissants français faisait partie de ceux qui ont été tués le 7 octobre. Donc je ne généraliserai absolument pas. Je pense que la France a une longue histoire d'amitié et d'amour avec les Juifs, depuis Rashi, qui était un immense rabbin qui écrivait en français, en vieux français. Et je pense que c'est ne pas faire honneur à son histoire que de dire qu'il y aurait maintenant une méfiance qui s'est installée. Il faut évidemment prendre des mesures. Moi, je pense que le sujet principal en la matière, c'est l'immigration. Mais je ne jetterai pas la France dans ce panier-là entièrement. Voilà.
Philippe Bigère.
Très intéressant. Non, mais de la part de Michael, qui est une personnalité lucide, pour et qui admet qu'Yvan Attal, avec beaucoup de finesse tout de même et une crainte qu'on peut comprendre, va un petit peu loin avec, dans l'effroi qu'il éprouve et qu'on ne ressent pas tout de même, malgré la volonté de certains de soutenir jusqu'à l'absurde la cause antagoniste.
Oui, Jean de Rideau.
Moi, j'aurais tendance, en fait, de ce que j'ai entendu l'intervention d'Yvan Attal, effectivement, sur Radio J, c'est un fait que j'ai tendance à partager ce triste constat. On sait qu'il y a des espèces d'espaces comme ça en France où il y avait énormément de juifs, et puis il y en a de moins en moins. C'est le cas à Sarcelles, c'est le cas dans le 20e à Paris, même à Villeurbanne, dans la région lyonnaise, c'est le cas. Enfin, c'est quand même un fait qu'on a, c'est, vous l'avez rappelé, Michel, on a une tradition de juifs français depuis pratiquement toujours.
Ça remonte toujours à très notamment longtemps. Les juifs alsaciens ou du comte à Venessa.
C'est quand même un fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français juifs qui ne sont plus en sécurité dans les écoles, qui ne sont plus en sécurité dans leur espace de vie, et c'est quand même très très préoccupant.
C'est tout à fait vrai, mais je pense encore une fois que c'est des zones ciblées, que c'est lié à des questions extrêmement précises, et je n'ai pas envie de manière générale que les juifs de France se complaisent dans une attitude de rejet, non pas de la France, mais de tout ce qui ne défend pas avec la même acuité, le même intérêt que la question israélienne. Moi, je comprends que des Français se sentent absolument pas concernés par cette question, et je trouve même ça beaucoup plus sain que certains qui s'y intéressent un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne veux pas que les Juifs deviennent une minorité victimaire. Nous n'avons jamais été comme ça, et je n'ai pas envie qu'on rejette la faute sur la France en entier. Non, il y a des problèmes à traiter, il faut s'y attaquer, mais ça n'est pas la faute du Français moyen.
Est-ce qu'il y a eu un revirement dans le vote des Juifs de France? En 80, ils avaient voté très majoritairement à gauche pour François Mitterrand. Aujourd'hui, on peut dire que ça s'est passé plus nettement à droite, non ?
Je le pense. Je pense de toute façon qu'il y a une ambivalence, je dirais, dans l'histoire juive et dans l'identité même juive. Je pense qu'il y a une part qui aspire évidemment au nomadisme, au mondialisme. C'est comme ça. C'est l'histoire d'un peuple qui a été éjecté des nations et qui, du coup, à ce sentiment-là qu'il n'appartient pas vraiment à une terre et qu'il est en errance. C'est une ADN plutôt de gauche. Mais il y a de l'autre côté un attachement profond à une tradition, un sentiment d'intégration dans les nations, un sentiment aussi de reconnaissance vis-à-vis de certaines nations, et notamment la France, qui leur ont accordé les droits et la citoyenneté universelle. Donc je pense que de toute façon, c'est un tiraillement historique, mais que évidemment, dans les conditions de sécurité, d'immigration, de dégradation de cette situation-là, ils sont passés beaucoup plus à droite. Il suffit de voir le vote d'Éric Zemmour, pour Éric Zemmour dans le 16e ou dans le 17e.
Ou en Israël,
chez les Français d'étrangers, qui ont voté à 53% pour lui au premier tour. Donc évidemment, le vote des Juifs aujourd'hui est plus à droite qu'il ne l'était il y a quelques années, c'est une évidence.
Merci beaucoup Michael Sadoun. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, on reviendra sur ce mouvement des universités pour un cessez-le-feu à Gaza qui se poursuit et prend de l'ampleur. Après Sciences Po vendredi dernier, c'est la Sorbonne qui se retrouve bloquée ce lundi, Philippe.
Alors parlons vrai, doit-on sanctionner tous les élèves pour quelques dizaines d'agitateurs? Est-ce que vous pensez que les universités sont hors de contrôle? Comment expliquer ce revirement dans un pays comme les États-Unis, où théoriquement depuis 68 et la guerre du Vietnam, l'agitation gauchiste n'était quand même pas majoritaire? Et à cette question, Sorbonne, Columbia, Sciences Po, craignez-vous un élargissement du mouvement? Vous dites oui à 55%. Vous voulez réagir? La souriante et excellente Aude vous attend au 0826-300-300.
Et notre invité pour en parler, Rémi Godot, rédacteur en chef de l'Opinion, vice-président de BMedia et auteur de l'édito de ce jour sur Sciences Po. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que, petite question avant de partir en pub, est-ce que c'est vraiment un mouvement pour les droits de l'homme ou une obsession finalement anti-Israël?
Plutôt, j'opte pour, plutôt pour la seconde option, parce qu'on se rend compte que gauchisme et wokisme, finalement, cette alliance-là mène vers des choses qui sont pas terribles.
Allez, on en parle dans un instant. Vous bougez pas, on fait une petite pause. On revient tout de suite. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps, Michel, ou...
Oh, depuis 6 mois, je ne connaissais pas votre radio et je me suis dit, tiens, là au moins, il y a des journalistes qui posent des questions qui concernent vraiment notre vie de tous les jours.
Sud Radio, parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On est ravis de vous accueillir, les vraies voix jusqu'à 19h, bien entouré. Aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe?
Oui, ah, ça va bien. En pleine forme.
Bon, tant
bien
mieux.
Sûr.
Tant mieux, de toute façon. Vous n'avez pas le choix, vous êtes là jusqu'à 19h.
Ah non, mais si ça n'allait pas, je dirais rien, ma chère.
Mais de toute façon, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, ce sera comme d'habitude. Comme ça, au moins, c'est clair. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Merci d'être là. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Allez, tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Tous ceux qui voyaient dans Sciences Po le symbole de la méritocratie et qui sont aujourd'hui effondrés de voir ce que cette école est devenue.
Il y a un moment où il faut dire stop, ça suffit, ce désordre n'est pas possible parce qu'il touche à l'essentiel.
C'est la démission de la direction de Sciences Po et c'est le gouvernement qui félicite cette direction.
Ça passe par une reprise en main, donc c'est une tutelle, donc c'est un questionnement sur les subventions publiques.
Je crois que le gouvernement devrait stopper les financements publics à Sciences Po.
Donc environ 150 étudiants se sont rassemblés ce lundi devant et à l'intérieur de l'université de la Sorbonne pour exprimer leur solidarité envers la cause palestinienne. Inspirés par les récentes actions des étudiants à Columbia par exemple et à Sciences Po Paris, les manifestants ont donc érigé des tentes dans la cour et dans le hall du bâtiment.
Alors parlons vrai, est-ce que les universités sont hors de contrôle? Est-ce qu'on doit sanctionner tous les élèves pour quelques dizaines d'agitateurs? Et comprenez-vous cette contagion entre les États-Unis qui ne sont pas franchement le temple du gauchisme et la France? Et à cette question, Sorbonne, Columbia, Sciences Po, craignez-vous un élargissement du mouvement? Vous dites oui à 55%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826-300-300.
C'est assez mitigé. On va en parler, bien sûr. Rémi Godot qui est avec nous, rédacteur en chef de l'Opinion et vice-président de B-Média et auteur de cet édito, ce matin sur Sciences Po. Je vous remercie d'être avec nous en direct et ex-étudiant, bien entendu, à Sciences Po. Philippe Bilger, est-ce que ça vous semble inquiétant quand même, toutes ces mobilisations?
Très. Si vous le permettez, Cécile, Philippe, j'aimerais me poser à moi-même 3 interrogations et qui trouveront une réponse pertinente tout à l'heure.
Mais on garde Rémi Godot quand même.
Ah mais bien sûr, on le garde précieusement.
Il va faire votre psychanalyse, c'est bien.
Il faut qu'il ait un peu de mémoire sur mes 3 interrogations. La première, je me demande véritablement si l'influence américaine est à ce point délétère qu'elle s'instille naturellement en France. Ma deuxième interrogation, et là, elle est plus sérieuse, c'est est-ce qu'il est normal que les débats politiques, même les plus sulfureux, entrent dans les grandes écoles, et notamment à Sciences Po, dès lors, évidemment, que ces débats politiques sont frappés d'un déséquilibre absolu et par un deux poids deux mesures calamiteux. Et dernière interrogation, c'est au fond, est-ce que l'attitude des pouvoirs publics n'est pas scandaleusement frileuse? C'est-à-dire qu'elles préfèrent, ils préfèrent avoir un accord dans des conditions que je considère presque comme déshonorantes, alors qu'une réaction rude, vigoureuse, montrerait clairement qu'il y a des choses qu'un pouvoir de droite ou de gauche ne devrait pas tolérer. Et ce sont trois interrogations, ma chère Cécile, que Rémi Godot tout à l'heure acceptera.
Il va y répondre dans un instant, ne bougez pas, voilà. D'abord le tour de table de
Jean de Rideau.
Non, moi ce qui m'interpelle, c'est la place qu'occupe Sciences Po dans les médias. J'entends Philippe Bilger parler de grande école, on a des grandes écoles en France. Je n'entends pas parler de mobilisation étudiante sur le campus de Polytechnique des Arts et Métiers ou des Ponts et Chaussées. Je n'entends pas parler de mobilisation étudiante sur le campus d'HEC, de l'ESSEC ou de l'ESCP. Je n'entends pas parler de mobilisation étudiante dans les universités de médecine ou de droit. Et donc, en fait, si vous voulez, on a quand même une espèce de microcosme à Sciences Po, là, rue Saint-Guillaume, et ça, il y a une capacité à capter l'attention médiatique par ces jeunes étudiants qui est assez mystérieuse. Je pense, j'ai mon avis, je vais écouter les propos de notre invité, je pense qu'en fait, il y a un problème avec Sciences Po, si vous voulez, c'est que ça nourrit de façon massive la haute fonction publique française et les médias. Et donc ça crée ensuite, si vous voulez, des espèces d'affinités, mais vraiment très consanguines et très toxiques. Et en fait, on n'a pas de problème étudiant, on a un problème avec Sciences Po.
D'accord.
Michael Sadoun, qui je crois est un ancien de Sciences Po.
Oui. Oui,
vous faites votre coming out.
J'ai mon coming out Sciences Piste, j'y étais et à l'époque déjà j'observais cette espèce d'antisémitisme facile. J'y étais il y a 6 ans moi.
D'accord.
Et j'y étais notamment au moment du blocage de Sciences Po, au moment de la loi Hors de réforme de la sélection à l'université.
Je crois qu'on vient de prendre un énorme coup de vieux là, je vous le dis tout de suite.
Voilà. J'y étais au moment de la réforme de la sélection à l'université, donc de la loi Hors, et déjà à l'époque ils avaient enlevé le drapeau français et européen et ils l'avaient remplacé par un drapeau anarchiste et palestinien. Donc ça a toujours été un emblème du gauchisme, donc ça n'a pas beaucoup changé. Déjà à l'époque, on m'avait dit à Sciences Po que je faisais partie d'une minorité dominante. Comme ça qu'on m'avait dit. En cours, je me souviens aussi que j'avais débattu avec quelqu'un qui disait « Mais pourquoi est-ce qu'on peut dénoncer le terrorisme islamiste et pas le sionisme ?» Et j'ai pas de problème, j'ai débattu avec ces gens-là pendant 2 ans. Donc ça n'est absolument pas nouveau, ceux qui tombent de leur arbre, alors soit n'étaient pas informés, soit on fait semblant de ne pas l'être pendant des années, mais ça n'a absolument rien de nouveau. De toute façon, le gauchisme et ses dingueries intellectuelles n'ont rien de nouveau. Je rappelle que Plenel, au moment des attentats de Munich en 72, soutenait l'action de Septembre Noir. Donc la justification du terrorisme ou de la violence au nom du bien réalisé dans l'histoire n'a rien de nouveau. Ce qui rend la situation dangereuse, et je veux insister sur ça, c'est que maintenant il y a un relais au niveau de la population et une force d'élection, notamment, je vais le redire, à cause de l'immigration, à cause de ce qui se développe dans les banlieues, mais sans ça, Jean-Luc Mélenchon, il ne serait qu'un intellectuel de tribune qui monterait comme Jean-Paul Sartre sur les poubelles pour faire des discours. Mais ce qui le rend dangereux, c'est qu'il y a aujourd'hui une réalité électorale derrière ça.
Bon courage, Rémi Godot.
Rémi Godot, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'Opinion et auteur de l'édito du jour sur Sciences Po. Vu votre chevelure, on a la même. Ça fait plus de 6 ans que vous étiez à Sciences Po, manifestement. Comment expliquez-vous ce tropisme pro-palestinien à Sciences Po? Et on va élargir dans les facs américaines qui sont, excepté que pendant la guerre du Vietnam, pas les temples du gauchisme.
Alors, j'ai pris des notes, je vais essayer de répondre à tout.
Oui.
D'abord, l'influence américaine, oui, elle est évidente. L'influence américaine, elle est évidente, c'est des États-Unis qui est venu le wokisme, c'est-à-dire cette manière d'appréhender la société en disant il y a des oppresseurs, il y a des opprimés, et il faut faire des groupes, et les oppresseurs ne peuvent pas parler avec les opprimés, et vice-versa. Ça vient directement des États-Unis, et ça inspire beaucoup toute la sociologie, pas que française d'ailleurs, européenne. Donc oui, il y a une influence américaine. Vous avez beaucoup parlé de débat, mais c'est là la question. Il n'y a pas de débat. Parce que lorsque vous avez une vision qui oppose opprimés, oppresseurs, ou qui dit que les genres ne peuvent pas s'entendre, il faut faire des catégories, lorsque vous imaginez la société en clans, vous ne pouvez pas débattre. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a des groupes de non-mixité, on n'accepte pas. Et donc, à Sciences Po, si vous allez aujourd'hui dans le hall de Sciences Po, je ne crois pas que vous alliez trouver des affiches. Vous allez trouver des affiches avec le visage des otages israéliens à Gaza, parce qu'elles ont été arrachées et qu'il n'y a que des affiches pro-palestiniennes. Alors, une fois de plus, dire ça, ce n'est pas prendre parti et dire que il n'y a pas un bon, il y a d'un côté un bon débat, d'un côté un mauvais débat ou une mauvaise ou une bonne prise de position. Mais il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, c'est le système est fait comme ça. Il ne faut plus qu'il y ait de débat. Et ça, c'est vraiment embêtant. Il n'y a plus de pluralisme. Moi, il y a une phrase d'un libéral que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut être intolérant avec les intolérants. C'est un problème de la démocratie, mais vous ne pouvez pas avoir une tolérance sans limite, même dans une démocratie, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de société, il n'y a plus de démocratie. Donc, il y a des lois. Hein, aujourd'hui, les propos antisémites, l'apologie du terrorisme, il y a des lois, il ne faut pas laisser passer ça. Après, que les gens aient des points de vue, qu'on défende Gaza, qu'on défende Israël, pourquoi pas, mais franchement, là, il n'y a plus de pluralisme. Donc, bien sûr, on parle beaucoup de débats, mais il n'y a plus de débats à Sciences Po. Après, l'attitude des pouvoirs publics, bien évidemment, elle est très frileuse parce qu'ils ne savent pas comment faire. Moi, je dois vous avouer que j'étais choqué, moi, que Gabriel Attal débarque à Sciences Po. C'est vrai que la liberté universitaire, le fait que c'est une enclave où il y a une liberté d'expression, le Premier ministre n'avait pas à débarquer comme ça. Mais après coup, je me dis, mais alors, à quoi ça sert de débarquer, de dire, attention, le poisson pourri par la tête, de faire la leçon aux administrateurs de Sciences Po pour aujourd'hui ne rien faire, laisser les choses, tenir des propos un peu autoritaires, mais sans trop faire grand-chose. Et ensuite, le dernier point, pour répondre au dernier interlocuteur, bien évidemment, ça a déjà existé. Je fais référence dans mon édito, un peu méchamment, aux maoïstes. Les maoïstes qui ont mené le mouvement de 68, qui ont donné des leçons à tout le monde, qui se sont peu préoccupés des dizaines de millions de morts qu'il y a eu en Chine et qui aujourd'hui sont au sommet du pouvoir, s'arrangent très bien avec le capitalisme. On peut s'imaginer que demain, le wokisme, ce sera la même chose. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a en France une instrumentalisation politique. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a en France la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et que si vous avez une classe politique, et en particulier un parti politique qui joue les uns contre les autres, oui, c'est dangereux. Il faut le reconnaître, c'est dangereux. Oui,
Philippe Bilger. Est-ce que Rémy Godeau, derrière cette volonté du wokisme venu des États-Unis de soutenir presque exclusivement et fanatiquement la cause palestinienne contre Israël, qui est au moins formidablement et tragiquement victime depuis le 7 octobre, il n'y a pas cette perversion qui court dans l'histoire où en réalité les apparemment forts Israël sont détestés au bénéfice des apparemment faibles comme les Palestiniens?
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, là, on peut citer Pascal Perrineau,
président de l'Association des Anciens. De Sciences Po,
un de nos anciens professeurs, peut-être, qui dit, c'est vrai qu'on voit bien le Palestinien est vraiment la figure de l'opprimé. Donc forcément, Israël est l'oppresseur, est le capitaliste, et tout ça. Et donc, ça ne peut être que le méchant, et ça ne peut être que la personne, que l'entité à abattre. Et bien évidemment, on voit là un mélange, il faut manier ça avec distinction, mais un mélange entre gauchisme, islamisme et wokisme, qui est franchement, si vous poussez à l'extrême leur raisonnement, ça peut mener qu'à des choses catastrophiques, parce que c'est basé sur l'exclusion, c'est basé sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de dialogue, qu'il ne peut pas y avoir de bien commun dans la discussion entre ces gens-là, et donc vous ne pouvez aller qu'à l'affrontement. Bien évidemment, alors ça peut être un affrontement symbolique, un affrontement par les mots, mais après ça peut aller beaucoup plus loin. C'est quand même, là, quand on en arrive, ça arrive aux États-Unis, c'est arrivé une fois à Sciences Po, à interdire l'accès des amphis à des étudiants parce qu'ils sont juifs, c'est quand même quelque chose de très fort. Et nous, on a connu ça en Europe dans les années 30. Donc c'est là, on franchit quand même dans l'impossibilité de cohabiter, l'impossibilité de partager quelque chose, on franchit une étape qui, pour moi, est vraiment très dangereuse et...
Jean Dorido.
Et effrayante.
Je m'interroge sur cette particularité, cette singularité de Sciences Po. On a quand même beaucoup d'universités en France avec des campus dont on sait qu'ils peuvent être parfois très politisés. On a connu des grands mouvements
à gauche
étudiants, avec des grosses mobilisations de l'UNEF, etc. Je pose la question à Rémi Godot, comment expliquer cette singularité quand même de Sciences Po sur ce sujet
surtout que sociologiquement, les élèves de Sciences Po, c'est pas franchement le lumpen prolétariat.
Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la classe sociale. Moi, je pense que réellement,
ça a tout à voir avec la classe sociale, parce que
à la Sorbonne, à Tolbiac et à Nanterre, ils sont exactement de la même manière politisés. Par contre, ça a à voir avec le genre de matière qu'on traite. Ça, c'est sûr et certain que les lettres et les sciences humaines invitent à un certain intérêt déjà pour le débat public, ce qui n'est pas le cas. J'étais à HEC, par exemple, ils s'y intéressent beaucoup moins.
Il y a des lettres et des sciences humaines à Nanterre. Je regrette, on n'a pas du tout les mêmes débordements sur le campus de Nanterre, il y a toujours des affrontements entre les 68. En l'occurrence, sur ce qui se passe en ce moment à Gaza,
on a eu des nouvelles quand même des associations juives là-bas et qui ont été traitées d'une certaine manière.
Ce n'est pas dans les mêmes proportions.
Le gauchisme est exactement le même. Simplement, je pense que déjà, il y a une moindre politisation des gens qui ont fait un peu plus de sciences, etc. Moi, j'étais à HEC, par exemple, c'est des gens qui veulent faire du business. Ils sont un peu moins concernés d'abord par la politique et ensuite le commerce et la politique ne fait pas bon ménage. Donc ils sont en général un peu moins engagés sur ces questions-là. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a une question de rigueur intellectuelle chez les gens qui ont fait de la science par rapport aux gens qui n'ont fait que des lettres et qui sont, je dirais, dans une espèce de débridation intellectuelle.
C'est pour ça que moi, je
suis très favorable à plus de sciences.
Il faut remettre des sciences, effectivement, pour éclairer les esprits.
Les amis, petite question à vous, Rémi Godot. François-Xavier Bellamy demande à ce que, finalement, les financements publics soient retirés à Sciences Po. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce qu'à un moment donné, s'ils ne sont plus maîtrisables, il faudra une sanction particulière.
Je suis pas trop pour parce que pourquoi au nom de 200 personnes qui bloquent tout, vous allez sanctionner 6000 étudiants. Donc je suis pas trop d'accord. En revanche, quand il y a des sanctions sur des étudiants parce qu'ils n'ont pas respecté des règles, je trouve scandaleux de passer un coup d'éponge. Et si on apprenait que parmi ces élèves, il y a des boursiers, je trouverais normal, s'ils n'ont pas respecté les règles, que peut-être ils ne continuent pas à toucher des bourses qui sont payées.
Oui, mais en même temps, la tête de Sciences Po entre Mathias Vichra et aujourd'hui, à chaque fois, il y a quand même du lâcher prise. On sent qu'il n'y a pas de. C'est pas tenu quand même.
Absolument, mais enfin tout ça est fait main dans la main avec l'exécutif, avec le pouvoir. Donc ça serait absurde de dire je coupe les financements alors que il y a quand même beaucoup de consanguinité, que la nomination du patron de Sciences Po, c'est discuté avec les ministres, le Premier ministre a son mot à dire, donc il faut pas être hypocrite avec ça. Donc écoutez, moi je pense que si demain la Sorbonne est bloquée, on va pas dire on va arrêter les financements publics de la Sorbonne. Alors là pour le coup, il y a pas de raison de faire de différence entre Sciences Po et les autres universités. Et pour répondre à la question précédente, c'est vrai que Sciences Po est un peu une vitrine. Alors peut-être qu'il y a une déformation, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont fait Sciences Po, mais Sciences Po est une vitrine. Et comme je l'ai écrit ce matin, le paradoxe, c'est que Sciences Po est censée former une élite, et finalement, elle nourrit des populismes, de gauche comme de droite, qui n'ont pas arrêté de nous dire qu'ils voulaient dégager les élites. Alors là, on est face à un paradoxe extraordinaire, ce qui fait que le cas de Sciences Po est très très intéressant.
Mickaël Sadoun veut réagir. Le science-piste du soir.
Des fondations se retirent déjà.
Je serais pas favorable à ce qu'on enlève les financements publics à Sciences Po, parce que pour moi, c'est un problème micro-Sciences Po, mais qui est la traduction d'un problème beaucoup plus large. Je pense que c'est beaucoup plus large d'abord dans les universités. Et puis, encore une fois, que des étudiants s'engagent, même très à gauche, et même de manière assez suspecte comme ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que les actes antisémites ont augmenté de 1000%. C'est ça, là. Et c'est ça qui nous inquiète, parce qu'on relie les deux problèmes entre eux. Mais si vous voulez, c'est pas des étudiants de Sciences Po qui vont agresser les juifs dans les banlieues. Donc, au lieu d'approcher le problème sous un angle micro à chaque fois en disant « Ah bah lui, on va l'interdire de parler, lui, on va l'interdire de faire une conférence, etc. » traitons une réalité qui est beaucoup plus massive et importante et significative dans ce pays.
Voilà. Mais je crois tout de même, Michael, que c'est pas dérisoire de savoir qu'à Sciences Po, il n'y a qu'un camp et qu'un clan intellectuel.
Alors je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais. Simplement, alors là, c'est un autre sujet. Le problème, c'est pas seulement ceux qui font le mal, c'est ceux qui ne s'y opposent pas par lâcheté.
C'est ça.
Et quand des gens m'ont dit que j'étais d'une minorité dominante, permets-moi de te dire, Philippe, que j'ai été moins choqué par ces gens-là que je savais gauchistes et que je savais avoir ces opinions-là que par ceux qui auraient pu me défendre et qui n'ont rien fait par lâcheté intellectuelle.
Vous avez
et
raison.
Là, je rejoins toutes ces associations juives qui aujourd'hui réagissent alors que pendant des années, ils ont été complices de cet antisémitisme-là et aussi de la Macronie qui a été assez
inactive. Allez, le mot de la fin avec Rémi Godot sur ce débat, peut-être.
Écoutez, maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains... Déjà cette semaine, parce que vous savez qu'il y a un rendez-vous.
Oui.
Hein, demain, il y a une convocation pour apologie du terrorisme donc ça, de Rima Hassan et de Mathilde Panot. Donc, ça peut avoir un impact. Parce que jeudi, à Sciences Po, il y a ce qu'ils appellent... vous voyez, l'américanisation, le Town Hall.
Town Hall,
c'est-à-dire ils vont organiser un débat. Et puis après, bien sûr, on va regarder ce qui se passe dans les autres universités. Donc, c'est vrai que... Les prochains jours, même si les examens s'annoncent à Sciences Po, vont être intéressants.
Ben merci en tout cas. Merci beaucoup. Mille fois Rémi Godot d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de l'Opinion et vice-président de Bay Media et auteur de cet audito ce matin sur Sciences Po. Merci beaucoup Philippe Bilger.
À demain.
Merci beaucoup.
Et ne repartez pas. Hein.
Non, suis là, je ne bouge pas.
On va la séquestrer.
Voilà. Mettez-moi des menottes.
Ah oui.
Ah, c'est presque excitant.
La température monte.
Merci beaucoup. Michael Sadoun. Merci beaucoup, Jean-Dorido.
Merci,
Jean-Dorido. Allez, plus sérieusement, dans un instant, les vraies voix citoyennes avec notre ami Aurélie Gros et Stéphane Pellet et des sujets très importants sur les femmes victimes de cancer et puis la reconstruction derrière et puis les femmes battues. Alors, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros.